Paul, nous avons considéré la dernière fois la première partie du deuxième voyage missionnaire qui emmène Paul, Silas et Timothée, qui se joint à l'équipe en cours de route, d'Antioche jusqu'à Troas, soit environ 1500 kilomètres. C'est le tronçon que nous avions considéré la dernière fois. 1500 kilomètres qui ne se sont pas toujours passés comme l'équipe le pensait. Et nous avons vu comment à plusieurs reprises sur ce bout de voyage, Dieu les a orientés puis réorientés pour les amener finalement jusqu'à Troas. Et c'est donc à Troas que nous allons les retrouver ce matin, au moment où ils vont s'embarquer vers Samothrace. Et je vous invite à lire dans vos Bibles ou à suivre le texte qui va être projeté de la première partie de la lecture que nous allons faire maintenant. Acte 16, je lis à partir du verset 11. De Troas, nous avons fait voile droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Et elle nous en a pressés instamment. C'est donc à Philippe que Paul et son équipe arrivent après être passés par Samothrace et par Néapolis. Donc nous sommes trois, c'est là, Néapolis, Samothrace, Néapolis et Philippe. Nous en sommes là dans le voyage de l'apôtre Paul. Notons qu'à leur arrivée à Samothrace, c'est en Europe que Paul et son équipe arrivent pour la première fois. Et c'est la première fois que l'évangile de Jésus-Christ arrive sur le sol européen. Paul va rester quelque temps à Philippe et une église va y voir le jour. Une église, des personnes avec lesquelles l'apôtre Paul va tisser des liens très forts. Il aura l'occasion, sans doute à deux reprises, de repasser par Philippe lors de son troisième voyage. Un mot sur les liens forts qui unissaient Paul à l'église de Philippe. Ceux-ci sont bien réels et je vous invite à relire, si vous le souhaitez, l'épître aux Philippiens et vous verrez à la relecture de cette épître que ce n'est pas un vain mot de dire que les liens étaient forts entre Paul et les chrétiens de Philippe. Cette épître aux Philippiens le fait bien ressortir. L'apôtre va recevoir de cette église un soutien matériel à plusieurs reprises. Et en particulier lorsqu'il va se trouver en prison, l'église de Philippe va non seulement le soutenir financièrement, c'était les proches, les amis qui prenaient soin des prisonniers à l'époque, il n'y avait pas d'administration pour payer cela, et non seulement ils vont pourvoir à ses besoins, mais ils vont envoyer Épaphrodite auprès de l'apôtre Paul pour prendre soin de lui pendant son emprisonnement. Tout ça, nous le trouvons dans l'Épître aux Philippiens et puis aussi dans d'autres textes. Il y avait donc beaucoup d'affection entre l'apôtre et les Philippiens. Et il le dit d'ailleurs explicitement au début de sa lettre aux Philippiens. Il dit « Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. » La tendresse même de Jésus-Christ. Du coup, l'épître aux Philippiens et la lettre à Philémon sont clairement les deux lettres les plus personnelles, les plus cordiales, les plus familières de l'apôtre Paul. Dans cet épître aux Philippiens, il va évoquer un avenir incertain pour lui, il va évoquer son espérance, son espoir de pouvoir revenir bientôt à Philippe pour les voir. Il ne va pas hésiter, alors que ce n'est absolument pas le genre de l'apôtre Paul, à donner longuement de ses nouvelles dans sa lettre aux Philippiens, et il va se répandre une large section à la fin de la lettre en remerciements pour tout ce qu'ils ont été, pour tout ce qu'ils sont et pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Tout cela, toutes ces relations entre Paul et les Philippiens commencent dans notre récit. Commencent quand l'apôtre Paul et son équipe arrivent à Philippe pour la première fois. Cette ville de Philippe a été nommée d'après Philippe de Macédoine, qui était le père d'Alexandre le Grand, et c'est une ville qui a été fondée aux alentours de 360 avant Jésus-Christ. Et la ville de Philippe jouissait d'un statut particulier à l'époque. Ses habitants, d'ailleurs le texte y fait allusion, étaient des citoyens romains. Ce qui veut dire que le droit romain était exercé à Philippe de la même manière qu'il était exercé à Rome et ailleurs dans l'Empire romain. C'est vraisemblablement en signe de reconnaissance pour tous les vétérans, les nombreux vétérans militaires qui prenaient leur retraite dans cette ville de Philippe. La question de la citoyenneté romaine, vous verrez, sera au cœur, pas au cœur, mais fera partie du récit un petit peu plus loin dans le chapitre. Trois choses notables vont se produire à Philippe, et j'aimerais que nous les considérions ensemble ce matin. Et la première concerne une certaine Lydie, dont il est fait état de sa conversion dans le texte que nous venons de lire. Notons rapidement qu'à partir du début du chapitre 16, le texte va passer à la première personne du pluriel. L'auteur va s'exprimer en « nous ». Et la lecture la plus logique à partir de ce moment-là est de comprendre que Luc, puisque c'est Luc qui est l'auteur des Actes des Apôtres, s'est joint à l'équipe à partir de ce moment-là, à partir de l'étape à Philippe, et qu'il rapporte ses souvenirs personnels. Alors il va y avoir une petite interruption, chapitres 17, 18 et 19, on repasse à la troisième personne, et puis à partir du chapitre 20, verset 5, il est à nouveau question de nous. Et il semblerait donc que Luc va rester à Philippe, alors que Paul et son équipe vont aller un petit peu plus loin, et quand il revient à Philippe, au chapitre 20, verset 5, il retrouve Luc et le récit recommence donc à la première personne du pluriel. C'est le jour du sabbat et Paul cherche un lieu de prière. À l'évidence, il n'y avait pas de synagogue à Philippe. Sinon, Paul s'y serait rendu. C'était son habitude, c'était par là qu'il commençait ses contacts quand il arrivait dans une ville. Cela veut dire aussi qu'il n'y avait vraisemblablement qu'il y avait moins de 10 hommes juifs dans cette ville de Philippe, puisque 10 hommes juifs étaient le minimum requis pour établir une synagogue. Paul se rend donc près de la rivière. Il cherche un lieu de prière. Sans doute près de la rivière, parce que s'il y avait des juifs pieux à Philippe, ils ne seraient pas, le jour du sabbat, très loin d'un point d'eau, à cause de toutes les ablutions que les juifs pieux devaient faire le jour du sabbat. On comprend donc cette démarche de chercher un lieu de prière près de la rivière. Et c'est là donc près de la rivière que Paul va rencontrer un groupe de femmes dont fait partie une certaine Lydie. Le texte nous donne trois précisions concernant Lydie. Premièrement, elle était marchande de pourpre. La pourpre est une matière colorante d'un rouge vif que l'on extrait, encore aujourd'hui, d'un mollusque, le murex. Et on teintait les étoffes avec ça à l'époque. Et ces étoffes teintées de pourpre étaient très prisées. Elles étaient signes de richesse ou alors même d'une haute dignité sociale. La deuxième chose que nous apprenons sur Lydie est qu'elle était originaire de Thyatire. Thyatire, on la voit ici, c'est dans cette partie de l'Asie mineure, donc pas très très loin de Philippe. Pour la petite histoire, c'est à Thyatire en particulier qu'étaient fabriquées les étoffes teintées de pourpre, et on comprend donc que Lydie était de cette ville et on comprend son occupation. Vous savez aussi qu'une des sept lettres que Jean va adresser au début de son Apocalypse va être adressée à l'église de Thyatire. Il y aura donc une église à Thyatire. La troisième précision concernant Lydie est qu'elle était adoratrice de Dieu, ce qui signifie qu'elle était d'origine païenne, mais qu'elle avait épousé la foi d'Israël. Elle était adoratrice de Dieu. Paul et son équipe se sont assis au bord de la rivière ou près de la rivière pour parler à ce groupe de femmes. C'est le texte où, précisément le texte où il en est question. Il est dit que Lydie écoutait et puis que le Seigneur lui a ouvert le cœur. Pourquoi faire ? Et le texte continue, pour qu'elle s'attache à ce que Paul disait. Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que Paul disait. Cette action de Dieu mérite que nous nous arrêtions un instant. Elle nous fait comprendre une des deux composantes du salut, à savoir ici l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. À la question « Comment s'opère le salut ?», nous devons donner deux réponses. Nous devons dire que c'est une œuvre de Dieu qui ouvre le cœur et que c'est aussi la réponse de l'homme qui accueille dans son cœur la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Il est question ici de l'œuvre de Dieu. Nous verrons un petit peu plus loin dans le récit ce qu'il en est de la part de l'homme. Mais ici, notre texte met l'accent sur l'action de Dieu qui ouvre le cœur. Et cette action est première. Première parce que nous sommes naturellement, spirituellement morts, à cause du péché. C'est ce que dit la Bible. À cause de l'aveuglement spirituel de l'humanité, la parole de Dieu ne peut persuader si le Seigneur n'ouvre le cœur. Le cœur humain, naturellement, n'est pas en mesure de recevoir la parole de Dieu, à moins que Dieu ne l'ouvre, à moins que Dieu ne le régénère, à moins que Dieu ne l'illumine. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens un petit peu plus tard. « L'homme naturel, dit-il, n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'accueille pas, ne peut pas accueillir ce qui relève de l'Esprit de Dieu. À cause du péché, l'homme est spirituellement mort et incapable de recevoir les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, à moins que Dieu n'ouvre son cœur. C'est une œuvre de la grâce. C'est une des deux composantes indispensables au salut. Et nous verrons la suite un petit peu plus loin. Il est dit ensuite que Lydie a été baptisée ainsi que toute sa famille. C'est ce que précise le texte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ceux qui voient ici une justification du baptême des enfants ont raison ? Lydie a été baptisée avec toute sa famille. Attention à ne pas faire d'un texte un prétexte. Le baptême au nom de Jésus dans le Nouveau Testament est toujours un acte qui suit la conversion, jamais qui la précède. Il y a d'autres textes dans les Actes, en particulier, nous en verrons un petit peu plus loin dans ce même chapitre, qui parlent de conversion familiale, qui parlent de baptisme, de baptême familiaux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Notons premièrement que dans ces quelques textes, il y en a 3 ou 4, aucun enfant n'est jamais cité dans aucun de ces textes qui parlent de famille. Notons ensuite que l'expression « les membres d'une famille » pouvait à l'époque non seulement inclure l'époux, l'épouse et les enfants, bien évidemment, mais aussi tous ceux qui vivaient sous le même toit, c'est-à-dire les serviteurs et les esclaves s'il y en avait. Ici, dans ce texte, le fait que Lydie soit marchande, milite fortement pour qu'elle soit soit veuve, soit célibataire, avec donc une forte probabilité qu'elle n'ait pas d'enfant. Et tout laisse donc à penser que ceux qui ont reçu le baptême ce jour-là, avec Lydie, étaient des adultes, qui eux aussi avaient entendu et accepté l'enseignement de Paul concernant le Christ et son salut. Et c'est donc ainsi que Paul et son équipe sont invités et acceptent l'invitation à être hébergés chez Lydie. Je vous invite à poursuivre la lecture de notre texte. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pitique et qui par ses divinations procurait un gain important à ses maîtres est venue devant nous. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, ces gens sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit, par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Et il est sorti à ce moment même. Voyant disparaître leurs espoirs de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Ils les présentèrent aux magistrats en disant « Ces gens jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs qui prônent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni d'accueillir ni de pratiquer, à nous qui sommes citoyens romains. » La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Paul et son équipe restent donc à Philippe, chez Lydie, et ils vont se rendre régulièrement, jour après jour, à ce lieu de prière près de la rivière. Seulement voilà, une servante, dit le texte, possédée d'un esprit pitique ou d'un esprit python, précise le texte, se met à les suivre jour après jour en criant « Ces gens sont des esclaves du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Ça va donc durer quelques jours et au bout de quelques jours excédés, Paul se retourne et commande à l'esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. C'est ainsi que cette servante se retrouve libérée de l'emprise démoniaque qui la retenait captive. Quelques remarques s'imposent ici. La première, pour rappeler que la réalité matérielle, celle que nous voyons et que nous touchons, n'est pas la seule réalité qui existe. Il existe un monde spirituel. Il existe un monde des esprits, et la Bible en fait largement écho. Notons juste ici, comme à plusieurs reprises dans les évangiles avec Jésus, que cet esprit mauvais sait des choses sur l'apôtre Paul, en l'occurrence comme certains esprits dans les évangiles sur Jésus, que le commun des mortels, que les hommes qui entouraient l'apôtre Paul ne savaient pas forcément. La deuxième remarque concerne l'identité de l'esprit qui possède cette servante. Il est question d'un esprit pitique ou d'un esprit python. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes vraisemblablement ici en présence d'un esprit, d'un démon, en lien avec l'oracle qui était exercé dans le temple d'Apollon à Delphes, et que l'on appelait d'ailleurs la Pythie. Ça rappelle peut-être des souvenirs scolaires. La Pythie ou la Pythonisse. C'était le sens premier. Et puis l'usage d'esprit Python va au fil du temps s'élargir et finira par s'appliquer à toutes sortes de divinations, ce qui est vraisemblablement le cas dans notre texte. La troisième remarque concerne l'autorité par laquelle l'apôtre délivre la servante. Paul ne le fait pas en son nom propre, mais il le fait au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Notons que quand Jésus chassait les démons dans les évangiles, il n'avait pas d'autre autorité à invoquer que la sienne. La quatrième remarque est que même si ces réalités nous semblent peut-être d'un autre temps, il existe encore aujourd'hui des gens qui sont sous l'influence de Satan, des gens qui sont possédés par un ou plusieurs esprits mauvais. Et si le mal est le même aujourd'hui, le remède, lui aussi, est le même. Et comme le Christ pouvait délivrer, le Christ le peut toujours aujourd'hui, délivrer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Alors c'est bien évidemment un vaste sujet que je ne peux pas développer maintenant, un vaste sujet où il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de nuances aussi à mettre. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce sujet, on entend beaucoup de choses et il n'est pas toujours facile de discerner, de démêler le vrai du faux. Peut-être qu'un jour nous nous pencherons un peu plus en détail sur cette question. Une cinquième et dernière remarque sur ce bout de texte. Elle concerne les conséquences de cette délivrance. En délivrant cette servante, l'apôtre Paul va mettre un terme à un commerce juteux. Et les maîtres de la servante, voyant leur espoir de gain disparaître, vont faire arrêter Paul et Silas, qui vont être battus à coups de bâton sur la place publique et puis jetés en prison. Et la question que l'on peut se poser ici, qui est soulevée par cette cinquième remarque, est la suivante. Comment expliquer que l'obéissance à Dieu, comment expliquer que faire le bien, comment expliquer que faire ce qui est juste conduise parfois à la souffrance, à l'épreuve, aux difficultés? Pourquoi Dieu permet-il que les choses soient ainsi? Cette réalité que nous expérimentons tous, à un moment ou à un autre, nous bouscule. Parce que je crois que nous pensons tous au fond de nous-mêmes que si nous sommes obéissants à Dieu, si nous sommes de bons chrétiens, si nous mettons tous nos efforts à faire le bien et à chercher sincèrement ce qui est bien, alors Dieu nous bénira forcément. Alors Dieu nous fera du bien, alors Dieu nous récompensera. Et parfois c'est le cas, mais quand ce n'est pas le cas, alors nous sommes déstabilisés. Alors peut-être nous doutons, Alors peut-être nous avons du mal à croire en la bonté de Dieu. Je vous propose de réserver la réponse pour dans quelques instants. J'y reviendrai quand je parlerai de la délivrance dont il est fait mention dans la troisième portion de notre texte. Pour l'heure, Paul et Silas sont injustement jetés en prison. En tant que citoyens romains, ils n'auraient pas dû l'être. Ils n'auraient pas dû être battus à coups de baston. C'était interdit pour un citoyen romain. La suite du récit va y faire écho. Alors nous ne savons pas pourquoi Paul et Silas n'ont pas fait état de leur citoyenneté romaine au moment où on les a arrêtés, pourquoi ils ne l'ont pas dit et pourquoi ils ne le disent qu'après. Nous ne savons pas, peut-être n'en ont-ils pas eu l'occasion. Toujours est-il qu'ils se retrouvent en prison. Et c'est la troisième et dernière partie donc de notre texte. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Et oui, ils sont dans la cellule centrale. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les licteurs dire au geôlier, « Relâche ces gens !» Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. « Les magistrats font dire de vous relâcher. Maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul leur répondit, « Après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous chasseraient en secret ? Pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux magistrats, qui prirent peur en apprenant qu'ils étaient citoyens romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie. Après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Si les prisons françaises sont loin d'être des lieux agréables, même la pire des prisons françaises est un hébergement 5 étoiles comparé aux prisons de cette époque. Paul et Silas sont emprisonnés. Et que font-ils dans ces conditions-là? Vers le milieu de la nuit, lisons-nous, ils prient et ils chantent des louanges à Dieu. Je ne sais pas si j'aurais eu le cœur à cela. Le texte précise que tous les prisonniers les entendaient. Quel témoignage! Et puis soudain, Dieu intervient. Dieu se sert d'un tremblement de terre pour ébranler les fondations de la prison et toutes les portes s'ouvrent. Non seulement toutes les portes s'ouvrent, mais tous les liens, dit le texte, se détachent. C'est clairement une intervention divine. Le geôlier, après s'être réveillé, voit les portes ouvertes et pensant que les prisonniers se sont échappés, va commettre le geste irréparable. Mais Paul l'en empêche. « Nous sommes tous ici, dit-il, afin de le rassurer. Tombant à genoux devant Paul et Silas, il faut comprendre que les tremblements de terre étaient considérés dans ce monde antique, et en particulier dans ce monde de la culture grecque de l'époque, comme des interventions divines. Et le geôlier a dû penser que la divinité, sans savoir forcément laquelle, était irritée à cause de l'incarcération de ses serviteurs. Et le geôlier demande donc : que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et la réponse de Paul ici traduit la simplicité du salut, la simplicité de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas d'autre chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voilà un autre texte dont nous parlions. Mais attention ici à ne pas penser qu'il suffit qu'une personne croie et toute la famille est sauvée. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le verset suivant précise, ils, c'est-à-dire Paul et Silas, lui dirent la parole du Seigneur, c'est-à-dire au geôlier, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. Ils ont donc tous entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, et à l'évidence, ils ont tous cru, puisqu'ils vont être tous baptisés avec le geôlier. Cette partie du récit nous amène à compléter ce que nous avons dit un peu plus tôt concernant le salut. Nous avons dit, après que Dieu ait ouvert le cœur de Lydie, qu'il y a deux composantes au salut. Il y a l'action de Dieu qui ouvre le cœur, qui permet au cœur de comprendre et de recevoir la parole de Dieu. Et puis, c'est ce que notre texte souligne maintenant, il y a la part de l'homme. Et cette part est de croire, d'accepter, de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Notons bien que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un sans l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Le salut, c'est toujours la convergence de l'action de Dieu et de celle de l'homme. Cette convergence de l'action de Dieu qui rend possible celle de l'homme. Dieu ouvre le cœur et l'homme peut croire et recevoir la parole divine. Il peut mettre sa foi dans le Christ et dans son œuvre de salut. Alors ici, bien évidemment, nous touchons à un mystère. Nous touchons à quelque chose de paradoxal, puisque d'un côté, il est question de la souveraineté de Dieu dans le salut. Et puis, de nombreux textes mettent l'accent sur la responsabilité de l'homme. Et là encore, il faut dire, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, les deux à la fois. Avec la promesse merveilleuse que quiconque croit, dit Jésus, quiconque croit ne périra point, mais aura la vie éternelle. Alors j'aimerais terminer maintenant en disant quelques mots sur la question de la délivrance de Dieu. Et je reviendrai aussi à cette question sans réponse précédente. Cette délivrance de Dieu qui est manifestement miraculeuse dans ce texte. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu ne délivre pas toujours son enfant. Je parle en particulier ici des délivrances physiques. Il le peut. Il le fait parfois, mais pas toujours. Ses enfants aussi tombent malades. Ses enfants aussi souffrent et vivent des choses difficiles, parfois même des choses tragiques. Ses enfants aussi parfois doivent vivre avec le handicap toute la vie. Ses enfants aussi sont confrontés au mal, à l'injustice, à la violence. Ses enfants aussi passent un jour par la vallée de l'ombre de la mort. Comment comprendre ? Que comprendre ? Y a-t-il quelque chose à comprendre ? Y a-t-il seulement une différence entre ce que vit l'enfant de Dieu et ce que vit le non-croyant ? Si différence il y a, elle n'est pas dans la réalité que nous vivons. Être chrétien, ce n'est pas vivre dans un autre monde. Être chrétien, ce n'est pas être immunisé contre tout ce qui fait mal, contre tout ce qui est mauvais. Être chrétien, ce n'est pas une sorte d'assurance tout risque qui nous mettrait d'une certaine manière à l'abri de tout ce qui est mauvais, négatif dans la vie. Être chrétien, c'est vivre comme le non-chrétien dans le même monde. Un monde qui est profondément marqué par le péché et par ses conséquences. Être chrétien, c'est être comme le non-chrétien, marqué dans son corps, dans son humanité, par le péché et par les conséquences du péché. Être chrétien, c'est être solidaire dans son humanité, du reste de l'humanité que nous partageons avec tous les hommes. Solidaire dans ses limites, solidaire dans ses effets, d'un monde marqué et d'une humanité marquée par la chute et le péché. Mais alors, y a-t-il une différence entre ce que vit l'enfant de Dieu et ce que vit le non-chrétien ? Oui, il y a une différence, mais elle n'est pas dans la réalité que nous vivons. Elle n'est pas dans la logique que j'évoquais précédemment, d'un bien, d'une récompense qui suivrait toujours l'obéissance, qui suivrait toujours une bonne action, qui suivrait toujours une action qui est juste. La différence se trouve premièrement et principalement dans le Dieu que nous avons, dans le Dieu auquel nous croyons. Elle se trouve dans la personne de Dieu qui est devenu notre Père par Jésus-Christ. Dieu, par Jésus, n'a jamais promis de nous épargner, d'épargner aux siens les épreuves et la souffrance. Pas même quand ils sont obéissants, pas même quand ils marchent dans les voies de Dieu, dans sa volonté. Mais par contre, il a promis sa présence. Il a promis d'être avec les siens tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a promis sa paix qui surpasse toute intelligence, une paix que l'on ne peut pas expliquer et qui peut être nôtre même au sein de la tempête. Il a promis de donner du repos à celui qui est fatigué et chargé et qui vient à lui. Il a promis de sécher les larmes et de consoler celui qui est affligé. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui. Et quelle différence ? C'est la différence de pouvoir vivre notre humanité avec toutes ses limites et toutes ses épreuves avec le Seigneur. En trouvant refuge en lui, en comptant sur ses promesses pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Donc, la différence est donc principalement en Dieu et dans tout ce que nous savons de lui, mais aussi dans notre compréhension, non seulement de Dieu, mais notre compréhension de notre monde déchu, dans la compréhension de notre humanité profondément affectée par le péché. Et cette compréhension, toutes ces compréhensions, nous les recevons de la parole de Dieu. Cette compréhension est dans notre espérance du monde meilleur qui est à venir et que Dieu nous promet. Un monde où la mort ne sera plus. Un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Vous avez reconnu ce texte de l'Apocalypse. Elle est dans l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Il arrive que Dieu délivre physiquement ici-bas. Et il arrive qu'il choisisse de ne pas le faire. mais dans un cas comme dans l'autre, il est toujours à nos côtés. C'est là le privilège du croyant ici-bas. Jusqu'au jour où le croyant, nous serons délivrés pour toujours. Jusqu'au jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, dit l'apôtre Jean. Jusqu'au jour où nous serons dans la présence bienheureuse de Dieu pour l'éternité. Là où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. À lui soit toute la gloire. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Nous te bénissons pour tout ce qu'elle nous fait comprendre, de ton amour, de notre condition pécheresse, mais aussi de l'espérance qui est attachée à Jésus-Christ. Merci parce que tu nous ouvres le cœur et nous pouvons croire en toi. Et croire en ton Fils, mort et ressuscité pour nous sauver. Seigneur, nous te prions pour que tu continues à agir au milieu de nous, que tu continues à ouvrir les cœurs qui sont encore fermés. Seigneur, merci pour toutes les paroles d'espérance que nous trouvons dans la Bible. Et par-dessus tout, merci pour ta présence, dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Si nous sommes découragés, si nous sommes abattus dans l'incompréhension, dans le doute, peut-être parce que l'épreuve est difficile à supporter. Seigneur, viens et prends-nous dans ta main. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite pour introduire le repas du Seigneur que nous allons prendre dans quelques instants.